Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de la rupture amoureuse. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Tara Lacroix. Bonjour Tara.
Bonjour Marie.
Comment tu te présentes et tu te définis, si c'est le cas ?
Alors, je suis une jeune femme de 29 ans, cisgenre, plutôt hétérosexuelle, on va dire, pour le moment, même si je me pose des questions en ce moment à ce sujet. Racisée, j'ai des origines algériennes kabyles du côté de ma mère, et j'habite en région parisienne, et à Paris plus précisément.
Merci Tara. Dans mon podcast Sologamy, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de rupture amoureuse. Tara, tu es venue il y a 1 an et demi dans le podcast Sologamy. Après ta dernière rupture, on en a longuement parlé dans l'épisode 23, qui a été rediffusé la semaine dernière et qui s'appelle « Se faire larguer ». On va voir comment tu vas aujourd'hui, 1 an et demi après, par quelles étapes tu es passée pour te reconstruire, quelle est ta situation amoureuse aujourd'hui et ton rapport au célibat. Bref, comment tu as fait pour surmonter une rupture sur le long terme. Mais d'abord, je voudrais te poser les questions traditionnelles de Sologamy, même si tu y as déjà répondu dans l'épisode 23, peut-être que tes réponses ont changé en 1 an et demi. Tu es donc ma meilleure amie, mais les gens ne te connaissent pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ?
Pour moi, être célibataire, ça signifie du coup de ne pas être en couple. Et après, du coup, je pense que ce qui est important, c'est de effectivement à ce niveau-là de redéfinir ce que veut dire le mot couple pour moi. Moi, je considère qu'être en couple, c'est être dans une relation d'amour romantique avec une personne avec laquelle on entretient une relation privilégiée. Que je pourrais qualifier de prioritaire et relation qu'on a officialisée auprès de plusieurs personnes, que ce soit une relation exclusive ou pas.
Ouais, t'avais donné un peu la même définition il y a un an et demi. J'ai réécouté le podcast hier. Est-ce que aujourd'hui tu es célibataire? Est-ce que t'as souvent été célibataire dans ta vie?
Alors aujourd'hui je suis célibataire, ouais.
Waouh.
Depuis du coup depuis le 14 mars 2022 je suis célibataire et c'est la première fois, je pense que je peux dire que c'est la première fois que je suis célibataire de toute ma vie parce que depuis mes 15 ans jusqu'à justement ce 14 mars 2022 j'ai été en couple donc pendant 13 ans et donc en fait avant enfin de ma naissance à mes 15 ans j'ai pas été en couple, mais je considère que c'est pas vraiment une vraie période de célibat puisque c'est pas forcément une période où on a encore, enfin c'est une période où on commence à avoir des petits copains ou des petites copines. Effectivement, je considère que c'est la première fois que je suis vraiment célibataire et du coup ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant.
Encore une fois, t'avais donné la même définition de ton enfance dans l'épisode 23. Est-ce que tu relis bonheur et couple?
Alors pas du tout. Je pense que c'est important de le dire là, mais vraiment je relis pas du tout bonheur et couple et encore plus maintenant après avoir expérimenté une période de célibat plus longue. Effectivement, je me rends compte que je suis bien plus heureuse maintenant que quand j'étais en couple. Je considère que ça peut être le cas pour certaines personnes. Que voilà, certaines personnes ont besoin d'être en couple pour être heureuses, mais en tout cas, moi c'est pas mon cas. Je dis pas que je serai pas de nouveau un jour heureuse en couple, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a pas forcément un lien pour moi. C'est pas forcément systématique.
Alors là, on a une petite évolution sur ta réponse à la question depuis un an et demi. Est-ce que la solitude est importante pour toi? Ça, je pense que c'est une nouvelle question.
Ouais, la solitude c'est hyper important pour moi. Ça l'était beaucoup aussi quand j'étais en couple. Enfin, j'avais conscience du fait que j'avais besoin d'avoir des moments seuls, etc. La seule différence, c'est que j'avais pas forcément l'opportunité d'être aussi seule que je le souhaitais. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Je me rends compte à quel point le célibat permet ça aussi. C'est-à-dire que ça nous laisse une liberté assez grande, pour choisir les moments où on est seul. Alors même que désormais, je vis plus seule, mais en colocation. Ce qui fait que vraiment, le couple était un frein pour moi à certains endroits et je pouvais pas forcément ou je me laissais pas la possibilité de choisir les moments où je pouvais être seule. Ouais.
Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui?
Eh ben, ça va super bien. Franchement, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Je crois que dans ma vie d'adulte, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant et parce que. Enfin, il y a plein de raisons, mais je pense que la rupture a été un peu un électrochoc et m'a permis de me retrouver vraiment seule face à moi-même pour me poser les bonnes questions, en fait, des questions que j'aurais probablement pu me poser avant et dû me poser avant, mais j'étais pas forcément dans les conditions pour le faire. Et donc, j'ai pu me poser la question de mes besoins, mais très factuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour mieux vivre, pour vivre dans des conditions qui me conviennent. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis la rupture, il y a plein de choses qui ont changé au niveau de, enfin dans ma vie, pas simplement au niveau de mes relations affectives et sexuelles, mais aussi dans des choix de vie comme le travail, l'endroit où j'habite, et puis les activités que je pratique au quotidien.
Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuelle?
Alors, mon célibat ne pèse pas du tout sur ma situation financière actuelle. Aussi parce que je pense que là, j'ai eu une évolution de, on va dire, de carrière. On peut appeler ça comme ça. J'ai un nouveau boulot où je gagne bien mieux ma vie qu'avant, depuis le mois d'octobre, là. Et surtout, je vis en colocation depuis... depuis presque un an maintenant. Et en fait, je me rends compte que on a mis en place quelque chose au sein de cette colocation qui fait que on se soutient tous et toutes mutuellement et même financièrement. On a fait en sorte de partager beaucoup de choses, notamment au niveau des courses et au niveau des achats communs de façon globale. Ce qui fait que et en même temps, on a mis en place une forme de justice dans le sens où on paye tous le loyer au prorata de nos revenus. Donc ça fait que déjà on arrive tous et toutes à être dans une situation financière plutôt confortable et après chacun peut participer à hauteur de ce qui est possible pour lui pour le reste. Et c'est vrai que j'ai pas forcément fait de calcul hyper précis, mais forcément quand il reste peu d'argent à la fin du mois, parfois c'est quelqu'un d'autre qui allait faire les courses, donc en fait ça pèse moins sur notre budget. Et c'est des choses qu'on calcule pas forcément très précisément, parce que par ailleurs on a un pot commun mensuel pour les courses, donc du coup après il y a des extras etc, mais ça on les calcule pas. Et puis on a aussi ce système là au prorata pour les loyers, donc finalement non. Et je pense que le fait d'être célibataire au contraire me permet de garder le reste en fait pour des activités personnelles ou pour faire des cadeaux aux gens que j'aime ou voilà faire partir en vacances, faire des choses pour moi quoi.
Comment tu vis ta sexualité en célibataire?
C'est hyper intéressant parce que je trouve que j'ai une sexualité beaucoup plus épanouie, aussi parce que c'est vrai que moi j'ai une libido qui est assez fluctuante, aussi parce que j'ai une vie qui est très chargée, et je pense que en ce moment je subis pas mal de stress avec le taf, un taf qui est passionnant mais qui effectivement est quand même assez stressant parce que si je viens de commencer, que je fais beaucoup de sport, donc physiquement je peux être aussi assez fatiguée, et du coup j'ai une libido qui est pas forcément toujours très élevée, même si honnêtement en ce moment elle est quand même plus élevée que quand j'étais en couple quoi. Et donc, peut-être que je ressens moins aussi une forme de pression d'un partenaire que je pourrais avoir en couple, quoi. Ça me permet d'avoir une sexualité beaucoup plus détendue et donc meilleure aussi, parce que je peux rencontrer plusieurs personnes, avoir des rapports intimes avec différentes personnes, avec lesquelles je vais pas avoir le même type de sexualité, que je vais pas forcément rencontrer voir à la même fréquence. Et du coup, c'est vrai que ça me permet d'explorer pas mal de choses différentes, d'être en contact avec pas mal de corps différents aussi, d'avoir des approches aussi parfois différentes au niveau de ma sexualité. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'elle est, même si les rapports que j'ai sont pas hyper fréquents, en tout cas ceux que j'ai sont d'une qualité bien meilleure qu'avant. Et ça je trouve que ça a pas de prix, et notamment comme je le disais avant, justement parce que j'ai eu la possibilité de m'interroger honnêtement sur ce que je souhaitais, et que grâce à un gros travail, hein, mais on en reparlera peut-être, un gros travail que j'ai fait sur moi-même et avec ma psy, j'ai pu construire j'ai pu aujourd'hui apprendre à faire part aussi de mes besoins et à poser mes limites, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et aujourd'hui, quand j'ai pas envie d'un truc, je le dis, et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, ce qui fait que forcément les choses qui m'arrivent sont beaucoup plus en accord avec moi-même et respectent beaucoup plus mes limites, ce qui fait que c'est beaucoup plus plaisant, quoi, tout simplement. Voilà, et notamment dans la sexualité.
Ok, et est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat ?
Pas du tout, en fait. Je pense que j'ai aussi beaucoup de chance d'être entourée, encore une fois, de personnes qui me mettent pas du tout la pression à ce niveau-là, ou qui n'insistent pas sur le fait que je sois célibataire et que il faudrait qu'à un moment quand même je trouve quelqu'un, ou je suis pas entourée de personnes qui me font sentir que ça pourrait être quelque chose de triste pour moi. je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont dans des situations différentes, qui peuvent être en couple, dans différents types de couples, ou alors célibataires, avec qui entretiennent des relations à droite à gauche, ou alors célibataires et qui n'entretiennent pas de relations avec un homme, une femme, ou une personne non binaire, ou même trans. Donc en fait, effectivement, je suis entourée de beaucoup de personnes différentes, et mes choix de vie, du coup, ne sont pas vus comme quelque chose d'atypique ou de problématique ou de triste, et donc en fait j'ai pas à subir aussi ce regard-là, je pense, ce qui me libère un peu de quelque chose, et donc non, je le vis très bien à ce niveau-là.
Cool. Alors, on arrive au thème du jour, surmonter une rupture. Chers auditeuristes, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode avec Tara que j'ai rediffusé la semaine dernière, Se faire larguer, je vous invite à l'écouter avant de passer à cette deuxième partie, parce que vous allez savoir ce qui lui est arrivé justement le 14 mars 2022. Là, on va passer aux conséquences et à ce qu'elle a fait après pour surmonter sa rupture. Donc, Tara, si les gens ne veulent pas réécouter l'autre épisode, peux-tu juste résumer très brièvement ce qui t'est arrivé le 14 mars 2022 ?
Eh bien, le 14 mars 2022, le garçon avec qui j'étais depuis 8 ans, avec qui j'étais en couple, donc c'était un couple non exclusif, m'a quitté. Donc il m'a largué, voilà.
Par téléphone.
Par téléphone. Bon, il faut préciser peut-être que à cette époque-là, ça faisait 2 ans que lui n'habitait plus dans la région. Il était dans le nord, et donc on ne vivait pas ensemble. Et moi j'étais restée sur Paris, et donc on se voyait quand on pouvait le week-end, et effectivement il m'avait proposé qu'on se voie sans me dire que c'était pour me larguer. Moi j'avais refusé pour différentes raisons, et donc devant ce refus il m'a appelé un lundi midi quand j'étais au travail pour me dire qu'il préférait qu'on arrête là, sachant que je me suis quand même un peu auto-larguée, puisque il a fallu que je creuse un peu pour que finalement il me dise qu'il voulait plus qu'on soit ensemble. Bref, donc ça c'est la façon dont les choses se sont déroulées le 14 mars 2022, et il se trouve que à partir de ce jour-là, disons que les semaines suivantes ont été très difficiles pour moi. Ça a été très dur. Ça a été vraiment un électrochoc assez important, parce que ça faisait quand même 8 ans, et puis 8 ans de complicité, d'un lien qu'on tisse, quoi, malgré tout. Et en même temps, à ce moment-là, mais je l'ai déjà dit, effectivement, j'ai quand même ressenti un gros soulagement que j'ai pas tout de suite compris, mais avec la douleur est venu aussi un soulagement et une forme de libération chez moi, que j'ai mis du temps à comprendre et qu'aujourd'hui j'arrive plus à définir. Mais du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an et demi avec cette personne-là.
Très bien. Pour que vous ayez plus de détails sur les conséquences immédiates de la rupture, encore une fois, écoutez l'épisode 23 de Sologamy, que j'ai rediffusé la semaine dernière. Comment tu as surmonté cette rupture sur le long terme ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour te relever ?
Alors tout d'abord, effectivement, je tiens à préciser que j'ai été très très bien entourée déjà par mes amis et ma famille, qui s'est tout de suite un peu auto-organisée pour me soutenir dans cet événement sans me juger. Donc j'ai eu mon meilleur ami qui est venu tout de suite m'aider, me faire à manger, m'aider à m'endormir. Toi aussi, Marie, t'as été ultra présente. Enfin voilà, j'ai été très bien entourée par plusieurs personnes qui m'ont permis de souffler, et puis d'être prise en charge, on va dire, dans les choses les plus concrètes de la vie, parce que c'est des choses que j'arrivais plus à faire. Mes parents m'ont accueilli tout de suite après la rupture, plusieurs jours pour que j'arrive à me reposer et que j'ai plus à prendre en charge les choses du quotidien, et que j'arrive à m'en remettre petit à petit. Et puis j'ai commencé à voir une psychologue qui m'a beaucoup aidée dans cet événement. En légitimant ce que je pouvais ressentir. en m'aidant à mettre des mots aussi sur tout ça, et puis après en travaillant un peu plus en profondeur sur les difficultés du coup que j'allais rencontrer par la suite, en me donnant des exercices d'écriture à faire et en me permettant de petit à petit reconstruire une estime de moi. Et puis travailler en fait sur des choses sur des choses sur lesquelles je pouvais pas travailler avant parce que j'étais dans ce couple qui finalement avec le recul me convenait pas tant que ça. Et donc le travail avec cette psychologue que je continue aujourd'hui même si ça va beaucoup mieux. Me permet d'avancer sur plein d'aspects de ma vie et de me sentir beaucoup plus solide dans les nouvelles relations que j'entretiens avec d'autres garçons, quoi.
Est-ce que tu avais envie de te remettre en couple quand t'es arrivée dans ce célibat ?
Pas du tout. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut noter, c'est que sur les deux dernières années, là, j'ai pas du tout eu le souhait de me remettre en couple. C'est vraiment une question intéressante parce que même moi, je me demande pourquoi. Je me demande si c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, globalement, de toute façon, ne me convient pas en tant que personne. Est-ce que, finalement, le couple classique, d'être avec quelqu'un avec qui on part en vacances... avec qui on va partager une bande de potes, avec qui, enfin de qui on va rencontrer la famille, avec qui on va peut-être partager la plupart de ses week-ends. Est-ce que ça me convient vraiment? Je crois pas. En tout cas, dans ces modalités-là, ça ne me convient pas. J'ai pas du tout ce désir-là depuis 2 ans. Après, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis aussi demandé si c'était parce que j'avais peur de me réengager, peur de lâcher prise sur sur ce que je pouvais ressentir pour une personne. Je me pose la question, je me demande si c'est pas ça aussi. Parce qu'effectivement, je le disais dans le premier épisode, mais on peut se dire à quoi ça sert de créer une relation aussi forte et une complicité aussi importante avec une personne pendant autant de temps si finalement, du jour au lendemain, ça peut se terminer de façon aussi brutale et qu'il reste plus rien parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun contact. Et ce qu'on a créé, en fait, n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui, c'est-à-dire que on pourrait plus jamais être dans les mêmes modalités de relation, on pourrait plus partager la même complicité. Et donc c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, aussi parce que je me dis que j'ai une façon d'aimer, aussi parce que je me suis posé beaucoup de questions sur l'amour en général, et que je me suis rendu compte que il fallait bien détacher le fait d'aimer quelqu'un et le type de relation qu'on voulait entretenir avec cette personne, que amour et relation c'était deux choses différentes et que c'est pas parce qu'on aimait quelqu'un que on avait forcément envie d'être en couple avec cette personne et que c'était pas forcément le meilleur type de relation pour bien aimer cette personne là justement. Sachant que du coup, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'était la définition de l'amour. J'ai beaucoup lu un peu par hasard de choses à ce sujet-là. Et que je me rends compte aujourd'hui que l'amour c'est pas seulement un sentiment mais c'est aussi une volonté, c'est-à-dire l'amour c'est une action, c'est ce qu'on fait au quotidien pour les personnes qu'on aime. Aimer c'est prendre soin, écouter, prendre en considération l'autre, le respecter, être honnête avec cette personne et sur soi-même et aussi avec elle. Et puis et du coup c'est mettre des choses en place au quotidien pour aimer dans l'action les gens. Et je me rends compte que en couple peut-être moi ça me convient pas. Je pense que je suis pas capable d'aimer quelqu'un comme ça de façon si exclusive ou de mettre quelqu'un en priorité à ce niveau-là, un peu comme l'amitié en fait. Et je fais beaucoup le parallèle avec l'amitié parce que pour moi c'est exactement la même chose. L'intensité de ce que je ressens pour les personnes dont je suis amoureuse de façon romantique, on va dire, est la même que pour les personnes avec qui je suis amie. Donc en fait, c'est vrai que aujourd'hui, c'est encore une réflexion que je mène. Tout n'est pas forcément arrêté à ce niveau-là pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout envie de me remettre en couple dans les modalités précédentes. Aussi peut-être parce que j'ai une crainte, c'est de, si ça ne me convient pas, ne pas avoir la force de m'en sortir. Parce que je sais qu'en fait, aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé dans ma précédente relation, je peux dire que les dernières années, j'étais pas heureuse avec lui. Probablement parce que je ne l'aimais plus. Pas parce que je ressentais plus d'attachement, plus de tendresse, etc. Mais parce que je ne l'aimais plus. Et du coup, j'ai pas réussi à avoir, à ce moment-là, la lucidité pour le quitter. Peut-être que j'avais pas aussi la force à l'époque. J'avais pas une santé mentale qui était aussi solide qu'aujourd'hui. Donc, ça a peu joué aussi. Mais je pense que oui, peut-être que j'ai peur de me réengager. Mais surtout aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter l'amour dans son entièreté. Et pour moi, c'est avoir la possibilité d'entretenir des relations amoureuses avec les gens, sans me limiter, sans subir de la jalousie d'autres personnes, et du coup en ayant la possibilité d'aimer qui je veux, quand je veux, avec évidemment une contrainte, hein, on reste sur des journées de 24 heures, mais je ne veux plus me sentir coupable d'aimer, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, et c'est devenu une boussole. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que le couple, c'est plus d'actualité pour moi actuellement, même si évidemment on ne peut pas prédire l'avenir et que peut-être ça évoluera un jour.
Je voudrais revenir sur ce que tu avais dit dans le dernier épisode, donc que j'ai réécouté hier. À un moment, tu dis le jour où il m'a quittée, je me suis rendu compte que je l'aimais à ce moment-là. C'était peut-être trop tard. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être la personne qui me comprenait le mieux sur cette terre, dont je me sentais le plus proche. Et donc, je perdais ce rock. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, puisqu'on est amis depuis un an et demi, de toute ton évolution depuis la rupture. Et que de plus en plus, tu remets en question même, en fait, cette forme d'amour qui te liait à lui. Est-ce que tu peux nous en parler de cette évolution?
Bah, comme je disais juste avant, en fait, effectivement, moi aussi, j'ai réécouté l'épisode en me disant, oh wow! Je n'étais pas très lucide encore à cette époque.
Pourtant, ça faisait déjà 3 mois que t'étais séparée. T'avais déjà commencé ton travail.
Effectivement, mais 3 mois, en fait, au regard de ce que je vis maintenant, c'était encore très, très peu. Et peut-être même que dans un an, j'aurais encore une autre vision des choses. C'est ça qui est aussi très intéressant. Mais du coup, effectivement, je pense que à l'époque, ce qui m'a, enfin, j'en ai beaucoup discuté avec ma psy justement. Et ce qui était intéressant, c'est que on s'est posé la question toutes les deux récemment, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait aussi mal? Parce que c'est vrai que à l'époque, ce que je pensais, c'est que je l'aimais tellement que ça me brisait le cœur, en fait, comme on peut le dire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait vraiment fait mal, c'est que j'étais blessée à l'ego, quoi. Genre, il m'a larguée, et je me suis dit, mais genre, on peut pas faire ça à moi, c'est pas possible. Et genre, je me suis rendu compte, c'était plus une blessure d'ego qu'autre chose, aussi parce que les choses ont été, je trouve, de son côté très mal faites, qu'il a été encore une fois très lâche et assez malhonnête. Mais je pense que c'est plus ça qui m'a blessée, et ce sentiment de trahison, en fait, dans une relation où, même si moi je l'aimais plus, on avait quand même une complicité très forte, un lien très 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 fort. Et donc forcément, je pense que c'est plus ça qui m'a blessée, et qui a fait que j'ai beaucoup souffert. Et aussi, je pense que c'est parce que je m'en voulais beaucoup de m'être laissé faire à la fin sur beaucoup de choses, d'avoir accepté de lui des comportements qu'aujourd'hui je supporterais pas, en fait. C'est aussi ce qui est très bien dans mon évolution. Mais
c'est quoi ces comportements? Parce que t'en parles souvent, mais je vois pas de quoi tu veux parler.
Ah oui, oui, bah effectivement, faut peut-être que je précise un peu. Je sais que dans la fin de notre relation, il a pu parfois me dire des choses assez blessantes que j'ai pas du tout relevées. Je peux donner un exemple assez concret, mais une fois, on était en vacances ensemble et on est parti faire de l'acrobranche. Et sur le dernier parcours, que j'avais le choix de faire ou pas, finalement, j'ai décidé de le faire, mais je me suis rendu compte à mi-parcours que j'étais un peu crevée, quoi, et que j'avais un peu moins de force, et que forcément, c'était plus compliqué pour moi, et que je traînais un peu, quoi, derrière lui. Mais bon, j'ai fini le parcours, on est rentré dans la voiture, il m'a dit bah tu sais, à ce moment-là, en fait, j'ai eu un peu honte de toi, quoi. Donc sur le moment, ça m'a fait vraiment mal, et en même temps, je me suis revue sur ce parcours-là et je me suis dit oui, c'est vrai que bon, je tombais, j'étais pas hyper solide, je faisais des petits bruits genre d'agacement ou de meuf ou de personne qui arrive pas trop quoi, qui avait du monde derrière qui attendait un petit peu, mais OK, et en fait, j'ai pas relevé. C'est-à-dire que j'aurais pu au moins lui dire mais pourquoi tu t'es sentie obligée de me dire ça? C'est-à-dire que tu le penses OK, mais en fait, garde ça pour toi, je veux dire et je pense que de toute façon à ce moment-là déjà il y avait des choses qui fonctionnaient plus entre nous mais moi j'étais dans un tel état que j'étais pas en capacité de me défendre de toute façon, et heureusement c'était pas quelqu'un de malveillant, il a jamais été violent avec moi, c'était quelqu'un de très bien, mais à ce moment-là notre relation, je pense que on arrivait plus à se dire les choses, que lui était devenu assez négligent et qui du coup pouvait se permettre de me dire des choses comme ça, ou en tout cas d'être beaucoup moins délicat avec moi. C'est ce que j'ai ressenti. Et donc, je sais plus quel était le propos.
Donc ça t'a blessé à l'ego, enfin on peut en revenir.
Oui, voilà. Donc c'est ça. Et ça m'a blessé à l'ego, mais je pense que c'était globalement, ça, c'était le point final de tout un processus où déjà sa négligence et son manque de délicatesse avaient commencé à éroder un peu l'estime que j'avais de moi-même, qui était déjà pas très élevée à l'époque. Mais du coup, ça a vraiment, je pense, mis un point final à ça. Je me suis retrouvée au fond du trou en me disant bon, vraiment concrètement là, je suis tellement une grosse merde en gros qu'il veut même plus être avec moi. Il y a vraiment eu ce truc là de il m'a virée et en plus pour aller avec une autre meuf. Enfin, vraiment, qui fréquentait depuis déjà quelques mois, dont il m'avait pas parlé. Enfin, il y a vraiment tout un contexte qui fait que ça a été très difficile et que je l'ai aussi vécu, pour ces raisons-là, comme une trahison. Et tout ça m'a fait énormément de mal et je me rends compte que c'est beaucoup plus ça qui m'a fait du mal que le fait qu'il m'aimait plus, parce qu'en fait, il ne m'aimait déjà plus, mais je pense. Mais,
et toi, t'as dit quoi? Ça faisait plusieurs mois ou plusieurs années que tu l'aimais plus?
Je pense que ça faisait 2 ans que...
Ah ouais.
Il aurait fallu que je le quitte, en réalité. Enfin, honnêtement. Mais j'étais pas dans un état de lucidité qui me permettait ça. Et puis, il y a un truc aussi avec l'habitude. Enfin, on est dans des habitudes avec la personne. Construit certains pans de notre vie, alors moi pas encore trop donc ça allait, mais on a quand même construit certaines habitudes, certaines choses, certains mythes sur cette relation là et c'est difficile de s'en sortir, surtout quand déjà on a une santé mentale qui est fragile, ce qui était mon cas à l'époque, et donc on se dit pas forcément le problème, peut-être que c'est aussi mon couple en fait, parce qu'à ce moment là la personne qui est avec toi, bah quand même à certains moments elle te soutient et c'est quand même la personne à qui tu peux parler. Même si elle t'écoute pas vraiment, même si elle a pas le niveau de soutien que tu souhaiterais, moi je m'en suis rendu compte après en rencontrant d'autres personnes. Mais sur le moment, bah c'est la personne qui t'écoute, c'est ton confident, et donc forcément il y a quelque chose de d'un peu vertigineux au moment où on se dit en fait ça c'est terminé quoi. Donc comment je fais maintenant? Il faut forcément réorganiser les choses parce que bah les piliers c'est plus les mêmes. Donc comment est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est ça qui est douloureux et qui l'a été pour moi, en tout cas, à cet endroit-là.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ouais, je comprends. Et dans cet épisode, on parle de couple hétéro et je voudrais juste replacer les choses dans leur contexte global, c'est-à-dire pour rappel, j'en parle dans l'épisode célibat politique de sologamie, mais en fait, quand on est en couple hétéro, en tant que meuf, on a tout à perdre, c'est-à-dire que la confiance en soi, c'est prouvé scientifiquement, on a tendance à la perdre quand on est en couple avec un homme, alors que lui, à l'inverse, être en couple avec une femme, ça va booster sa confiance en lui. Il va avoir de meilleures relations avec ses amis, avec ses proches, alors qu'une femme en couple hétéro a de moins bonnes et moins fortes relations avec ses amis et ses proches. Financièrement, c'est pareil, on est lésé quand on est une meuf en couple hétéro. On s'épanouit moins dans son travail, on progresse moins si on a envie de progresser dans son travail. À l'inverse, un homme, lui, ça va le booster d'être en couple hétéro. Il va davantage progresser, gagner de l'argent, être populaire. Et puis au niveau de la santé physique et mentale, c'est également prouvé que quand on est une meuf en couple hétéro, on va être en moins bonne santé physique, moins bonne santé mentale, on va mourir plus tôt. À l'inverse, un homme va avoir une espérance de vie décuplée s'il est en couple avec une femme, tout simplement parce que, vous le savez, les femmes s'occupent davantage des hommes, et donc eux, ça leur permet de s'épanouir au dehors, de se sentir bien dans leur peau, etc. Alors que nous, on a tendance à se sacrifier, à faire la psy, à avoir une charge mentale, du stress qui va à la longue, avoir des conséquences sur notre santé physique et mentale. Donc, tout ça pour dire que je suis misandre et que je prône le célibat, mais c'est prouvé scientifiquement. Alors, je voulais savoir, Tara, aujourd'hui, quel est ton rapport au célibat ? On a parlé beaucoup de couple dans cet épisode, mais comment tu vis ton célibat ? Je veux pas spoiler, mais je sais que tu as quand même des relations avec des hommes. Est-ce que... voilà, comment tu définis ton célibat ?
En fait, c'est vraiment le célibat. Je le vois vraiment comme un espace dans lequel je peux organiser librement désormais les relations que je vais entretenir avec les gens. Comme je le disais, l'avantage c'est que aujourd'hui j'ai eu la possibilité aussi, avec tout le temps libre que j'ai eu du fait de ne pas être en couple, de me poser sincèrement la question de ce dont j'avais besoin, ce que je voulais, à la fois dans ma vie mais aussi dans les futures relations que j'aurais à entretenir avec de nouveaux garçons. Et en fait, effectivement, je me rends compte aujourd'hui que ça m'a beaucoup aidée, parce que j'ai recommencé à dater des hommes, et au fur et à mesure j'ai recommencé à dater des garçons avec qui j'ai peut-être commencer à entretenir des relations plus ou moins suivies qui m'ont pas convenu. Et en fait, l'avantage, je trouve, et là où j'ai vachement évolué, c'est que j'ai eu la force, et surtout ça s'est fait de façon assez évidente pour moi, là où à d'autres moments de ma vie j'aurais été beaucoup plus en difficulté, mais j'ai eu la force de mettre un terme à ces relations et de pas me dire il va forcément mal le prendre, ça va forcément hyper mal se passer. Je suis tombée sur des garçons extrêmement bienveillants qui ont compris que peut-être c'était pas le moment pour moi d'entretenir ce type de relation avec eux, ou tout simplement on se plaisait pas assez et que du coup ça devait se terminer. J'ai eu des relations, enfin une relation un peu plus suivie, on va dire, qui s'est terminée là assez récemment, mais assez tranquillement. En fait, ce qui est intéressant dans les relations que j'entretiens aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment de prendre vraiment mon temps, de me poser la question à chaque fois, à chaque étape, est-ce que ça me convient ? Est-ce que ce truc-là en particulier me convient ? Et d'essayer d'en parler avec la personne en face. Je dis pas que c'est facile, en tant que c'est devenu ultra facile, etc. Je dis juste que, contrairement à avant, le fait d'être dans des relations qui ne conviennent pas me dérange plus. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans le sacrifice. Je fais beaucoup plus attention à moi. Il y a nettement quelque chose qui a changé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand mes limites ne sont pas respectées, je suis vraiment gênée. Genre vraiment, ça me gêne. Et ça me gêne au point où je n'ai plus envie de voir la personne. C'est-à-dire que je ne peux plus passer outre. Ce qui est déjà une étape pour moi qui paraît évidente, en fait, hein, pour beaucoup de personnes, mais qui pour moi n'était pas le cas. Parce que je pense que j'étais encore dans une démarche où je cherchais la validation des hommes et des gens en général. Et aujourd'hui, le célibat m'a permis, en fait, de me remettre au centre, vraiment. J'ai pu me remettre au centre pendant un certain temps, en fait, assez long, sans être interrompue par des relations amoureuses à entretenir avec des garçons, parce qu'il y a eu une période où j'ai pas daté, quoi. Et donc, vraiment, j'ai pu petit à petit reprendre ce type de relation, mais beaucoup plus tranquillement. Et à chaque fois, quand ça ne me convient pas, en prenant le réflexe de me remettre au centre, en me disant « bon, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est moi la référence. Et aujourd'hui, je me sens assez solide pour me sentir une référence pour moi-même, pour me dire, en fait, toi, tu t'aimes tel que tu es, vraiment. Genre, tu te trouves ultra stylé. Pourquoi est-ce que tu acceptes que ces gars-là ne te montrent pas la même chose ou ne te respectent pas? Tu n'accepterais pas ça de toi-même aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu l'acceptes de ces hommes-là, quoi? Donc il y a vraiment cette chose-là, je pense, qui a changé pour moi. Aujourd'hui, peut-être la difficulté, c'est de réussir plus systématiquement à dire les choses à ces hommes-là, à leur signifier que certaines fois mes limites sont pas respectées, même si beaucoup moins qu'avant, aussi parce que je pense que je choisis mieux mes partenaires, des partenaires qui sont aussi beaucoup plus en accord avec mes idées, avec mes idées politiques, hein, notamment avec mes valeurs, avec le mode de vie que j'ai choisi. Avec l'idée qu'en fait, bah, actuellement, je ne souhaite pas être en couple exclusif. Donc en fait, si l'autre est pas d'accord avec le fait que je puisse aller voir ailleurs aussi, ça ne peut pas fonctionner. Et sans animosité, hein, en lui disant, bah, écoute, je comprends, mais on n'est pas aligné sur ça. Ça va te rendre malheureux. Moi, ça va me rendre malheureuse. Donc en fait, arrêtons là et peut-être reprenons contact un autre jour s'il y a des choses qui changent chacun de notre côté. Mais c'est intéressant parce que c'est des discussions que je peux enfin avoir, que j'ai jamais eu avant, où je me rends compte et je me surprends, et je suis assez fière de moi d'arriver de dire ça à ces hommes-là sans me dire ah mais du coup je me coupe d'une possibilité d'être validée par un homme ou d'être aimée, etc. Parce qu'en fait l'amour dans ces conditions-là ne m'intéresse plus. Donc ça, je pense que c'est une chose qui a changé, et où le célibat et la période vraiment sans dater a été ultra essentielle pour moi. Évidemment aussi le travail que je fais avec ma psy, sur moi-même. Et ça, ce sont des choses qui sont essentielles et qui font que je suis très heureuse aujourd'hui aussi. Parce que je vois aussi cette période comme une période d'expérimentation où j'ai pu remettre certaines priorités au centre. Par exemple, quand j'ai recommencé, j'ai eu une longue période, là j'ai eu 3 mois sans travailler avant de reprendre un nouveau travail. Et effectivement, ça a été une période où j'étais très libre, donc j'avais la possibilité, je veux dire factuellement au niveau du temps, j'avais beaucoup de temps libre, donc j'ai pu faire beaucoup de choses, voir beaucoup de gens que j'aimais, et puis j'ai pu commencer à entretenir des relations aussi avec d'autres garçons. Et des relations assez suivies, même parfois pour certains. Et il se trouve que au moment où j'ai commencé à reprendre le travail, vraiment je pense qu'une semaine avant, je me suis dit bah en fait je sais quel poste je vais avoir, je vois à peu près le type d'exigence et de comment dire, de disponibilité émotionnelle et intellectuelle que ça va me demander, et en fait je sens que je vais plus être en capacité d'entretenir certaines relations que j'entretenais là pendant la période de vacances parce que j'avais le temps, mais que j'entretenais parce que j'avais le temps et pas forcément parce qu'elles étaient hyper épanouissantes pour moi. Donc je me suis vraiment posé la question à ce moment-là en me disant bon, tu sais que là tu vas être beaucoup beaucoup prise aussi parce que c'est un nouveau poste, donc tu vas forcément beaucoup plus travailler, même au niveau de mentalement ça va être beaucoup plus compliqué de t'impliquer ailleurs et c'est normal dans les premiers mois. Mais du coup, qu'est-ce que t'as envie de prioriser? Eh ben, c'est plutôt les relations qui m'apportent du bonheur au quotidien et qui sont vraiment épanouissantes pour moi, et où je sens que c'est épanouissant pour tout le monde, à la fois mes amis, ma famille, mais aussi les garçons que je fréquente, on va dire, dans des relations intimes. Et donc, j'ai mis fin à plusieurs relations comme ça, et ça m'a soulagée. Et vraiment, quand j'ai ressenti ce soulagement, je me suis dit... Il y a comme un basculement qui s'est opéré où je me suis dit « Ah, c'est bon, en fait, là, je pourrais plus jamais revenir en arrière. » C'est-à-dire que ce sera difficile pour moi d'entretenir des relations qui sont pas satisfaisantes parce que ça y est, j'arrive enfin à me poser la question de mes priorités. Et ça, c'est quelque chose de, je trouve, d'inestimable qu'on peut peut-être réussir à faire en couple, mais en tout cas, moi, que j'avais jamais réussi à faire depuis. Et je me rends compte que là, sur ces 2 dernières années, on va dire, j'ai beaucoup plus évolué que sur les 13 dernières années où j'étais en couple. Enfin, vraiment, je sens que dans mon cerveau, il y a des choses qui changent à une vitesse folle. Et ça, c'est extrêmement intéressant et stimulant, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu voudrais parler un peu de ce qu'on a fait cet été ensemble? Puisque le célibat, ça t'a permis, comme tu l'as dit, de faire de nouvelles choses, et notamment ces 3 mois cet été où t'as pas travaillé. Qu'est-ce que t'as fait cet été, et est-ce que tu peux nous parler de ton séjour avec moi dans les Pyrénées, puisqu'on a marché toutes les deux pendant presque une semaine, on va dire.
Oui. Oui, alors avant de parler de ça, justement, je trouve intéressant que tu soulèves le fait que la période, cette période de vacances que j'ai eue, elle m'a permis de faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais aussi revenir sur le fait que, effectivement, mon célibat, comme il m'a permis de me poser aussi les bonnes questions, m'a permis de faire vraiment des choix de vie, des nouveaux choix de vie hyper importants sur les deux dernières années. Et il y a des gros changements qui ont eu lieu. Donc, bah, j'ai changé de travail, notamment, justement. J'ai mis fin à un taf, en fait, que j'aimais mais qui était maltraitant, en demandant une rupture conventionnelle, donc du coup en ayant le chômage et la possibilité justement de passer 3 mois en plus j'avais pas dans l'optique de retravailler tout de suite, mais finalement j'ai eu une opportunité donc je l'ai saisie, mais j'aurais pu passer l'année à pas travailler parce que j'avais justement envie de me réaliser à d'autres endroits et d'utiliser cette opportunité là du chômage à ce moment-là pour ça. Mais du coup voilà, j'ai changé de taf et en même temps j'ai aussi changé d'habitation et de mode d'habitat, c'est-à-dire que j'habitais toute seule jusqu'au 30 mars 2023. Et du coup, j'ai déménagé à ce moment-là en colocation avec mon meilleur ami, sa copine et un autre ami à nous. Et vraiment, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur. Et en même temps, je me rends compte que c'était le bon choix. Mais un choix que j'aurais jamais pu faire quand j'étais en couple, parce que il était. Je crois que j'avais beaucoup intégré l'idée, et je pense que pour mon partenaire c'était la même chose, mais que c'est soit j'habitais toute seule, soit j'habitais avec lui, et qu'il aurait été inconcevable pour lui que j'habite avec en coloc, parce que il aurait vu ça comme du rejet, là où j'avais toujours refusé de vivre avec lui en fait. Parce que je pense aussi à l'époque il était persuadé que c'est parce que je voulais pas vivre avec des gens, mais en fait c'est surtout que je pense que je voulais pas vivre avec lui, mais surtout avec un homme cis en couple quoi, où effectivement je sentais que ma charge mentale était déjà beaucoup trop importante. Et que je voulais m'éviter quelque chose de bien pire, quoi. Donc voilà. Et effectivement, la période de vacances m'a permis de faire plein de choses trop cool, de partir en vacances avec plein de personnes que j'avais pas vu depuis un moment, d'anciennes collègues qui sont mes amis maintenant, un autre ami à moi aussi qui est un ancien collègue, de partir avec mon meilleur pote pour une durée indéterminée sur les routes à vélo. Enfin vraiment, c'est un luxe. Vraiment, j'ai conscience que c'est un gros privilège qu'on a eu à ce moment-là, parce que lui aussi était au chômage. Et je sais que c'est vraiment un luxe et un privilège qu'on a eu à ce moment-là de faire cette expérience. Et puis, évidemment, pareil, je suis partie une semaine avec toi dans les Pyrénées. Donc, on est allé marcher entre meufs. On a marché ensemble pendant 4 jours, à peu près. Et en bivouaquant, enfin, dans des endroits incroyables. Vraiment, je pensais préférer la mer à la montagne. Et en fait, en faisant les Pyrénées, je me rends compte que c'est peut-être quelque chose qui va changer pour moi. J'ai vu des paysages que j'avais jamais vus. Et en fait, surtout, il y a quelque chose d'important pour moi qui a changé à ce moment-là aussi. C'est que quand même, encore récemment, donc du coup, avant qu'on parte ensemble dans les Pyrénées, je re-rêvais de mon ex parfois. Et c'était pas des rêves agréables, c'était des choses qui me polluaient un peu l'esprit. Je sentais qu'il avait encore... encore une forme d'emprise en fait. Enfin, disons que sa présence était encore un peu là dans mon cerveau, que j'étais pas totalement, on va dire, décolonisée de ce couple-là. Et en fait, pendant les Pyrénées, on a eu une discussion à un moment donné où tu m'as dit que toi, enfin au tout début de notre séjour, tu m'as dit que un peu comme ça par hasard. Que t'étais allée sur son compte Insta et que t'avais vu sa copine, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, tu te rendais pas forcément compte de ce que tu me disais et de l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Aussi parce que je sais que même moi, quand ça va pas, je dis que ça va et qu'on voit pas forcément que ça va pas. Mais disons que, en tout cas, à ce niveau-là, tu m'as dit ce truc-là et ça m'a touchée parce que je me suis dit, merde, en fait... ça y est, il a un compte Insta et je le savais pas et genre ça m'a frustrée de pas savoir, et je me suis rendu compte que j'avais encore besoin d'avoir du contrôle sur lui un peu, sur parce que comme si on était, il y avait encore une possibilité qu'on soit ensemble, alors que vraiment c'était pas du tout mon souhait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose une chose sur laquelle j'arrivais pas à lâcher prise. Et je m'en suis rendu compte quand tu m'as parlé de ça. Aussi parce que mon premier réflexe, ça a été de me dire « Ah bah, je vais aller voir tout de suite. » Sauf qu'en fait, on était à un endroit où il n'y avait pas de réseau. On était dans l'incapacité totale de même que nos proches puissent nous joindre. Et donc vraiment, c'était impossible. Et donc, je me suis retrouvée face à une frustration horrible et vraiment extrêmement douloureuse où d'un coup, alors que je vivais un moment extraordinaire avec toi, de joie pure, je me suis retrouvée à être extrêmement déprimée. Et là, ça m'a saoulée. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est-à-dire que je suis plus avec lui depuis plus d'un an. Il m'a rendu les dernières années de notre couple assez chiantes. Ça n'allait pas. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie et il a encore de l'influence. Et c'est pas lui, hein, c'est pas de sa faute, c'est moi qui accepte qu'il ait encore cette influence sur moi, quoi. Et donc, comme moi j'ai pris aussi cette habitude en voyage d'écrire tous les jours. J'ai pris mon petit carnet, mon petit stylo, je me suis assise devant le magnifique paysage où on allait bivouaquer, et j'ai écrit. J'ai écrit pendant une ou deux heures tout ce que je ressentais à ce moment-là, et quel était le problème, en fait. Quel était le problème? Le problème, c'est que bah, j'arrivais pas encore à accepter la fin de cette relation, et le fait de plus avoir, en fait, même de regard sur ce qu'il vivait actuellement. Et je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, j'accepte le fait que ça ait encore une influence sur moi et que ça pourrisse des moments aussi importants de ma vie et aussi joyeux? Et je me suis dit non, en fait, c'est plus possible. Ça ne peut plus durer comme ça, c'est terminé. Et en fait, en l'écrivant, je crois que je me suis couchée et le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et après, j'ai vécu un séjour formidable avec toi. Et je suis ressortie de là en me disant, en fait, je me rends compte à quel point... ça y est, ce séjour-là m'a permis de débloquer ce truc-là, en me disant je me libère définitivement de cette emprise qu'avait encore notre couple sur moi. Et aussi, je me suis d'un autre côté rendu compte à quel point je me suis rendu compte de ma puissance, parce qu'on a quand même fait des trucs durs, on a monté des cols, on va pas se mentir, tu vois. On a avec parfois pas beaucoup de sommeil parce que les nuits sont pas aussi bonnes que quand t'es dans ton lit chez toi, quoi. Et que pourtant on a réussi, j'ai réussi et j'ai quand même passé des super moments et je me suis rendu compte de ma puissance, en fait, en tant que femme. Et je me suis rendu compte aussi que j'aurais jamais pu m'en rendre compte si j'avais pas été seule, enfin si j'avais pas été célibataire, et si j'avais pas eu la possibilité de l'expérimenter, et de l'expérimenter avec toi. Et du coup, pour ce moment, encore merci, parce que c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et je me rends compte que ouais, ce séjour a changé beaucoup de choses pour la suite et pour les moments que je vis actuellement. Et aussi que, effectivement, encore une fois, ça n'aurait jamais été possible si j'avais pas été célibataire. Parce que j'aurais pas eu la même tranquillité d'esprit.
Waouh, je suis censée dire un truc. ouais, ok, merci. Bah, moi aussi, c'était incroyable. Mais pour revenir au célibat, c'est vrai que, comme tu l'as dit, quand on arrive dans le célibat, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Toi, t'as changé ton métier, ton travail, t'as changé l'endroit où t'habitais. Et moi, je dis souvent, quand je suis devenue célibataire, j'ai changé aussi de travail, j'ai changé d'endroit où j'habitais, je suis partie faire mon tour du globe en cargo. Donc, c'est vrai que c'est une période où on peut changer beaucoup de choses et faire des choses qui nous correspondent mieux. Et c'est cool. J'ai une autre question, même si ça fait déjà longtemps qu'on parle. Ce chemin de célibat, est-ce que ça a remis en question ton orientation sexuelle?
Alors oui, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question-là, parce que c'est des réflexions que j'ai en ce moment même, c'est-à-dire que c'est pas encore très clair pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, plus globalement, le célibat m'a permis enfin de me poser des questions que je n'osais pas me poser avant, parce qu'elles auraient forcément remis en question le couple dans lequel j'étais. Donc je sais que consciemment, j'ai évité certaines lectures, certains sujets, quand j'étais en couple, parce que je pense que je me rendais bien compte que de me documenter ou de réfléchir à ces choses-là allait forcément chambouler un peu le couple dans lequel j'étais, et à l'époque j'étais pas en capacité d'accepter ces choses-là, ou du coup après coup de mettre en place des choses pour y remédier. Et donc, bah, le fait d'être célibataire, ça m'a permis de beaucoup plus réfléchir à d'autres choses, et donc effectivement de réfléchir aussi à la question de mon orientation sexuelle, pardon. Aujourd'hui, je fréquente que des hommes cis hein, actuellement. Mais je me rends bien compte aussi que je suis quand même attirée par des meufs et que c'est quelque chose qui est envisageable de mon côté. J'avoue que c'est quelque chose qui est un peu effrayant pour moi parce que c'est assez nouveau et que je sais pas comment dealer avec ce truc-là pour le moment et puis que je suis pas encore sûre de moi-même, que j'ai peut-être un peu l'impression aussi d'être pas hyper légitime dans tout ce que je ressens. Donc je sais que c'est un processus, que peut-être je suis en début de processus et voilà. Je pense que si je devais me définir, peut-être que je dirais un terme tel que hétéroflexible. Je pense que c'est ce que j'ai mis sur les apps de rencontres que j'utilise actuellement. Je pense que c'est plus ça mon statut actuel. Mais c'est intéressant parce que effectivement, ouais, je me rends compte à quel point je suis beaucoup plus libre aussi de me poser certaines questions actuellement en étant célibataire. Et ça, en termes de tranquillité d'esprit et d'épanouissement, ça a vraiment pas de prix, quoi.
Waouh, bah pareil pour moi. J'ai envie d'en parler pendant des heures, mais ça fait bientôt une heure qu'on parle. Pour finir, quel conseil tu donnerais à une personne qui vit une rupture aujourd'hui?
Je pense que c'est peut-être les mêmes conseils que j'ai donnés avant, mais disons que je pense que ce qui est important, c'est déjà d'accepter le fait que ce soit quelque chose, un événement important et potentiellement grave dans la vie de cette personne. Enfin, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que ça peut être très douloureux, ça peut être handicapant pendant une certaine période de sa vie. Il faut accepter l'impact que ça a sur sa vie et du coup accepter aussi de mettre des choses en place pour être mieux pendant cette période-là, faire des choses qui nous font du bien, c'est le plus important, faire les choses qui nous font du bien, ne pas hésiter si c'est possible à s'appuyer sur les personnes qui sont autour de nous, nos amis, notre famille. Je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une famille soutenante ou tout le monde n'a pas des amis, que parfois on peut être très loin aussi de ces personnes-là. Mais de pas hésiter à s'appuyer sur ces personnes-là, de si on a besoin aussi et qu'on a la possibilité financière d'aller voir une psy ou un psy, de se confier, d'en parler beaucoup, de dire les choses. Si on peut pas les dire, de les écrire au moins. Il faut se libérer de ces choses-là au quotidien et de ce qu'on ressent aussi. Mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que ça permet aussi de matérialiser les choses. Et à partir du moment où on met des mots sur les choses, elles existent et donc on peut mettre en place des protocoles de guérison, quoi, à partir du moment où le problème est posé. Donc ça, je trouve que c'est très très important. Ouais, faire des choses qui nous font du bien, accepter que ça va prendre peut-être du temps, plus ou moins, mais que c'est ok en fait de prendre son temps, et que c'est pas grave si t'as l'impression que ça prend plus de temps que ta pote pour qui ça a pris un peu moins de temps. Accepter que même si en fait c'était pas une relation très longue, hein, ben ça peut être aussi quand même très douloureux parce que ça peut renvoyer à plein de choses en fait, à des traumas même passés qu'on a eu. Enfin voilà, moi je pense que c'est ça qui est important. Je dirais que il faut avoir en tête l'idée que oui, ça va passer. Alors pour certaines personnes c'est plus compliqué, ça passe pas forcément. Ça peut mener à des choses assez graves et même assez fatales, quoi, le suicide. Mais je pense que si on a un relais important et qu'on sent qu'on a le relais et les ressources, il faut aussi se dire que ça va être difficile, c'est normal, mais on peut s'en sortir, c'est possible. Ça vient d'une personne qui a traversé ça, et aussi que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont traversé autour de nous. Il faut pas hésiter à faire parler les autres et à leur demander eux comment ils ont vécu les choses de leur côté, parce qu'aussi on se rend compte que c'est une douleur qui est assez universelle. Ça nous permet de nous sentir moins seuls, et ça le temps et le fait d'être soutenu, je pense que c'est essentiel.
Ok, je pense que tu peux devenir coach en rupture. J'ai jamais entendu autant de conseils pertinents. Et comme on a fait deux épisodes sur le sujet, on a eu le temps d'y réfléchir, tout surtout toi. Mmh. Pour finir l'épisode, comment on se connaît? Ben, on se connaît du lycée. On s'est rencontrés à Versailles au lycée. On avait 15-16 ans. Et donc, ça a fait plus de 15 ans. Non,
12 ans, non? Attends, 15-16 ans?
Ah non, je dis n'importe quoi.
Ça fait combien de temps qu'on se connaît?
Ça non, fait... ça, oui, ça fait 12 ans. Bref, je sais pas, 2010, on va dire, 13 ans.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ça fait 13 ans qu'on se connaît et on est amis. Est-ce que tu veux finir sur une recommandation, sur une dernière petite chose?
Tout à fait. J'ai même, je crois, trop de recommandations. Non, disons que il y a un livre que j'aimerais bien recommander. C'est sur la question de l'amour et le rapport... le fait que ce soit un sujet politique, en fait. Je pense que je pourrais recommander le livre de Bell Hooks à propos d'amour, qui est hyper intéressant sur elle a toute une réflexion sur ce qu'est l'amour et ce que ça implique dans notre société actuellement et comment est-ce que c'est important dans les révolutions qu'on a envie de mener. Et du coup, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée à me rendre compte que j'étais dans le vrai à plein d'endroits, que j'avais des intuitions qui étaient bonnes pour moi-même. Hein. Encore une fois, je parle pour moi-même. Et que du coup, j'étais sur la bonne voie de la guérison à ce niveau-là. Je pense que je peux recommander aussi le livre Manifeste pour une démocratie déviante de Constanza Spina, qui explique que l'amour est la clé, en fait, dans la révolution, dans les nouvelles sociétés qu'on a potentiellement envie de mettre en place, et que c'est une belle alternative au fascisme, et que c'est que comme ça qu'on arrivera à lutter contre le fascisme et les idées fascisantes. Et aussi, ça permet de nous interroger sur quelles sont les différentes formes d'amour et la façon dont on peut vivre cet amour-là, et qu'il n'y a pas que le couple, c'est intéressant un peu de se décentrer et de se rendre compte qu'à plein d'endroits, on peut créer des espaces et des communautés amoureuses qui sont beaucoup plus épanouissantes que le couple, qui aujourd'hui, en tout cas pour moi, sont la solution dans les choix de vie que je fais. Voilà.
Oui, tu me les as prêtés, il faut que je les lise. Merci Tara.
De rien.
On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditoristes, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je sais que vous avez beaucoup aimé le premier épisode avec Tara, diffusé en octobre 2022 et rediffusé la semaine dernière. Donc, appréciez-vous d'avoir de ces nouvelles? Son histoire vous inspire-t-elle? Quelle est votre stratégie pour surmonter une rupture? Je pense que vous aussi, vous pourriez être coach en rupture, en vrai. Écrivez-nous pour me répondre. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR. Sur les réseaux, vous pouvez aussi écrire au podcast Sologamy, qui est sur tous les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Je suis sûre qu'il pourra aider d'autres personnes et à m'envoyer votre avis. Aujourd'hui, je remercie Polder85 qui a laissé ce commentaire sur Apple Podcast le 2 avril 2023. Un podcast plein de sincérité et de liberté de soi pour se rendre compte que non, nous ne sommes pas étranges si nous sommes différentes de notre entourage amical ou familial, que justement nous sommes uniques. Merci Marie de me donner confiance en moi et de m'affirmer en tant que femme célibataire, qui pour moi n'est pas une tare mais une force de pouvoir faire tout ce que je veux et de me soucier que de mon propre avis. C'est le podcast qui me rebooste quand je me sens mal et qui apaise mes angoisses. Merci encore. Bah, merci à toi, Polder85, pour ce témoignage. Ça fait très plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et le soutenir financièrement sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, on reverra Tara dans l'épisode du mois prochain sur un autre sujet complètement différent, célibat et activisme. Au revoir, Tara.
Au revoir, Marie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.